La méditation est quelque chose à quoi on n'a pas accès par le langage. Essentiellement, c'est pas par la réflexion que on a accès à la méditation dans sa plus grande profondeur, mais c'est justement de découvrir ce qui vient avant le langage. Donc, quand nous essayons de décrire ce qui se passe pendant les instructions ou bien le soir, on est toujours dans une difficulté qui est d'essayer de désigner quelque chose qui viendrait justement avant le langage. Le langage a ses difficultés, on va l'évoquer, mais aussi, il est aussi utilisé de manière vague. Les termes n'ont pas toujours le même sens. Donc quand on parle de, par exemple, de pleine conscience, mindfulness, sati, ça a des sens différents. Et plus le terme devient à la mode, plus on l'emploie d'une manière vaste, et puis il perd un petit peu son aspect extrêmement précis. Donc pleine conscience, je vois qu'on l'utilise immensément, présentement, c'est peut-être une bonne chose, mais dans des contextes quand même assez différents. Donc j'aimerais marquer on pourrait dire que dans la méditation, ces termes-là, mindfulness, pleine conscience, ont deux sens particuliers qu'il est important de définir et qui abordent certains aspects de la pratique méditative. On pourrait dire qu'on aborde la méditation sous les deux sens que prend la pleine conscience ou sati ou mindfulness. On a besoin une attitude qui va avoir deux aspects particuliers. Je prends un exemple que donnent les Tibétains qui illustre assez bien les qualités dont nous avons besoin pour développer la méditation, pour l'approfondir. L'exemple qui est donné, il faut imaginer les temples tibétains, pour ceux qui ne sont jamais allés dans ces régions-là, c'est extrêmement sombre parce qu'il y avait des petites fenêtres au Tibet, parce qu'il fait froid, il n'y a pas de lumière électrique. Enfin, il n'y en avait pas, là, quelques ampoules maintenant. Donc les murs sont très sombres et puis les murs, évidemment, sont pleins de peintures, mais aussi des textes qui sont écrits. L'exemple, il est donné, si on veut lire ce qui est écrit sur un mur, par exemple, eh bien, hein, on a besoin d'une lampe, lampe à beurre, par exemple, ou d'une bougie. Et donc, il faut à la fois que cette bougie, cette lampe, la flamme soit stable, mais qu'elle soit aussi suffisamment lumineuse. Si elle est, évidemment, elle éclaire très peu, on ne va pas pouvoir lire ce qu'il y a sur le mur, mais si il y a du vent ou si la main tremble, eh bien à ce moment-là, on ne va pas non plus pouvoir lire ce qu'il y a sur le mur. Ici, il s'agit de, on pourrait dire, de lire la réalité pour nous dans la méditation. Donc il y a besoin de ces deux attitudes, une attitude qui est stable, qui fait que la conscience ne vacille pas, et puis une attitude aussi, il faut qu'elle soit suffisamment brillante pour pouvoir découvrir voilà, ce qu'elle perçoit ou ce qui est à percevoir. Donc on a, si vous voulez, pour pleine conscience, on pourrait dire qu'il y a deux attitudes particulières, si on veut garder ce terme, pourquoi pas. On a, d'une certaine manière, une attention qui est dirigée vers quelque chose. C'est le terme d'attention que nous connaissons dans la vie quotidienne. Être attentif pour traverser la route, être attentif quand on descend les escaliers, etc. Donc l'attention qui porte sur quelque chose de particulier, qui vise quelque chose de particulier, c'est une attention dirigée. Et puis on a, on pourrait dire pour la clarté, ça c'est la stabilité. Pour la clarté, on a une attention non dirigée, qui elle va viser à avoir une clarté suffisamment grande. À ce moment-là, quand on a à la fois la stabilité et cette clarté suffisamment grande, à ce moment-là, on va pouvoir découvrir finalement ce qui est à découvrir dans la méditation. Donc, dans notre pratique, on a besoin de ces deux aspects et on les pratique quelquefois en étant plus attentif à développer un des aspects. Tout d'abord, c'est l'attention dirigée, notamment sur la présence corporelle, sensations corporelles, sur la respiration, sur les sensations dans les mains. Donc là, il y a une attention dirigée qui essaye de stabiliser, dans le fond, l'esprit. Et puis, l'autre aspect, donc, qui est l'attention non dirigée qui, elle, va développer plutôt l'intimité. On va voir comment, à l'expérience, qui permet justement cette clarté. Donc, quelquefois, on développe, on est plus attentif, on a besoin de développer un aspect, cette stabilité, et quelquefois, plus l'autre aspect qui est cette, on pourrait dire, cette curiosité à l'expérience présente. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On va voir qu'est-ce que cette curiosité peut vouloir dire. Une curiosité, il faut dire, qui se situe avant les mots, qui ne va pas être dire, ah, mais c'est ceci, c'est cela, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une curiosité par rapport à l'expérience présente qui ne chercherait pas à mettre des mots particuliers. Et quelquefois, elles se rejoignent, ces deux attitudes se rejoignent. Quand la pratique est bien équilibrée, elles se rejoignent en équilibre, et c'est là qu'on pourrait dire la pratique prend sa plus grande profondeur. On décrit quelquefois cette attitude conjointe de la stabilité et puis de la clarté. On appelle ça Kanika Samadhi, qui veut dire une stabilité instantanée, une stabilité d'instant en instant, où on parle de non-distraction. Non-distraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas besoin de diriger vers une sphère d'expérience particulière pour éviter d'être attiré par le souvenir, le projet ou d'autres zones. Donc, il n'y a pas besoin, dans l'attention non dirigée, il n'y a pas besoin d'avoir cette attitude-là, parce que l'esprit est suffisamment disponible. Et à ce moment-là, il est disponible dans chaque expérience quand elle surgit. On parle de non-distraction parce qu'il ne se leurre pas, il est exactement clair sur ce qui se passe dans l'instant. Ce qui se passe dans l'instant, il n'y a pas la moindre confusion. Donc là, on peut dire que c'est lorsque les deux attitudes se rejoignent, et la pratique vise un petit peu à ceci, est-ce que ces deux attitudes se rejoignent dans ce Kanika Samadhi, cette non-distraction d'instant en instant, qu'on décrira encore par la suite. Donc dans l'attention dirigée, pour tranquilliser l'esprit, qui est sélective, qui sélectionne une sphère d'expérience, on appelle aussi Samatha comme pratique, mais vise à, dans le fond, essayer de limiter la curiosité de l'esprit. L'esprit peut être très curieux, ou être attiré facilement par une chose ou une autre. Donc on essaie de limiter cette curiosité, hein, dans une sphère d'expérience particulière. Ça peut être les sensations corporelles dans tout le corps, présence corporelle. Ça peut être les sensations dans les mains lorsque l'une est posée sur l'autre. Ça peut être les sensations que laisse la respiration dans l'abdomen, dans la poitrine. Donc en excluant à ce moment-là, quand on explore ceci, on ne prête pas attention aux sons, par exemple. Les sons, peu importe, ce qui nous intéresse, c'est cette sensation corporelle. Il arrive que quand l'esprit est très stable, que les sons ne sont plus entendus, non pas parce que tout d'un coup il y aura un problème avec les oreilles, mais simplement parce qu'il n'y a plus de disponibilité de l'esprit pour prêter attention aux sons. On parle d'isolement, on a isolé l'esprit des autres stimulations, c'est un choix. Par exemple, les formes et les couleurs, on ferme les yeux en général. On pourrait être autrement distrait par personne qui bouge un petit peu devant nous, ou bien, je sais pas, le soleil ou le vent qui bouge un peu les rideaux, et ça changerait la lumière. Donc, fermant les yeux, on essaye d'être plus disponible à cette sphère d'expérience particulière que sont les sensations corporelles. Protéger également de l'imaginaire, évidemment, qui sont la sphère de stimulation la plus grande. Si les sons pourraient être d'un certain intérêt, ou les formes et les couleurs, ce qui en général nous captive, nous attire, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, donc, qui nous porte vers le souvenir, qui fait surgir le souvenir, ou bien les projets. Mais l'imaginaire, ce n'est pas le réel. Et dans la méditation, évidemment, on essaie de découvrir qu'est-ce que la réalité. Donc, sans se laisser séduire par l'imaginaire. Ou accaparer. Quand on dit séduire, on se dit, ben, des fois, les souvenirs ne sont pas nécessairement des souvenirs heureux. Donc, ce n'est pas que tout d'un coup, j'ai vraiment envie de me rappeler de ceci, mais certains souvenirs reviennent, on verra pourquoi d'ailleurs, reviennent constamment à l'esprit, nous déranger, on pourrait dire de cette manière-là. Donc, c'est le fait d'isoler, dans le fond, l'attention, l'esprit sur une sphère d'expérience particulière, c'est un peu comme stabiliser la main qui veut lire ce texte sur le mur. Donc, comme zone, comme sphère, on peut choisir différents éléments. On pourrait être uniquement dans l'audition des sons. Il y a certains textes qui enseignent ceci, le fait d'être attentif aux sons pour tranquilliser l'esprit, pour qu'il ne soit pas porté sur autre chose. Alors, les sons, c'est un peu difficile parce qu'ils sont. Ils sont sont pas dignes de confiance, on ne peut pas compter sur eux. Tout d'un coup, il y a un bruit, il y en a un autre, il y a un oiseau, il a disparu. Donc, vous voyez, on ne peut pas vraiment prendre ceci facilement comme base, comme sphère de stabilisation, zone d'ancrage, comme on dit. Ça pourrait se faire si on était au bord d'un torrent, par exemple. Là, il y aurait toujours un son qui surgirait. On pourrait le faire dans ce cas-là. D'autres cas où on aurait un bruit constant. Certains textes disent aussi, si on était près d'un feu de camp, d'entendre le crapitement du feu. Bon, maintenant, il faudrait alimenter le feu. Mais ça permettrait aussi d'avoir une sphère où on pourrait s'y fier. On sait qu'il y a toujours un son qui surgit. Mais d'une manière générale, l'audition des sons, c'est un petit peu plus difficile. Mais par moments, il est judicieux de passer au son. Si quelquefois il y a trop de tension dans le corps ou bien des émotions un peu difficiles, on a envie de prendre une distance dans le fond sans nécessairement pouvoir sortir de la salle. À ce moment-là, quelquefois on peut prêter attention au son, on change la sélection si vous voulez. Et puis évidemment, il y a toujours des petits sons quand même. Il y a les craquements dans une salle, c'est immense, les petits bruits et puis les craquements, ils ont ce côté extrêmement aidant, favorable, c'est que on met pas facilement un nom sur des craquements. C'est juste, voilà, on entend juste ça. Si on entend un oiseau, voilà, on a l'image de l'oiseau, le nom, mais les craquements, c'est assez génial parce que c'est juste des craquements, quoi. On peut pas vraiment mettre une image sur le craquement. Je sais pas quelle image vous auriez pour craquement, mais enfin, voilà. Donc, ça pourrait aussi se faire, hein. Il y a toujours un petit peu de bruit, mais comme sphère d'attention pour essayer de développer cette tranquillité, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus simple. Si vous êtes dehors, parfois, vous pouvez aussi le faire. Je pense qu'il y a un peu plus de bruit, le vent dans les feuilles, par exemple, ça pourrait aussi être un support par moment à la sélectivité de l'attention. Mais aussi le corps dans la position assise, debout, dans le mouvement aussi. C'est ce qu'on fait dans la marche. Enfin. On essaie de ne pas être captivé par l'audition ou par la vision et autres pour essayer d'être plus concerné, dans le fond, par la présence du corps en mouvement. Et comme je l'ai dit, si jamais on a envie de regarder parce que c'est beau, on s'arrête. À ce moment-là, on se donne l'opportunité de voir et puis peut-être d'avoir une certaine joie dans la vision d'un paysage assez beau. Et puis ensuite, on peut repartir dans la marche en explorant cette présence immensément riche dans le corps en mouvement, ou simplement dans le fait d'être debout avant de se mettre en mouvement. Comme je le dis ce matin, il n'y a pas de pause dans la vie. On est debout, la vie se déroule. Je dis que les mots étaient un peu une difficulté. On peut voir ici, par exemple, que dans la position debout, avant de se mettre en marche, eh bien, ceci change d'instant en instant et pourtant on peut très bien s'attacher à quelque chose de stable. Ouais. Il y a la position debout parce qu'on substitue à l'expérience corporelle, on substitue une image. Voilà. Quand vous levez après la méditation, je me lève, je suis debout, ça c'est accompli. Une tâche accomplie, il n'y a plus rien à faire, on n'a pas besoin de faire l'être debout, mais la vie continue. Et quand on substitue de nos coups une image, une représentation, voilà, il y a la position debout. À ce moment-là, on est dans une représentation, dans l'imaginaire, on n'est plus dans la vie. Et très rapidement, dans nos expériences, on substitue la représentation à l'expérience elle-même. Et c'est de cette manière-là, comme j'en ai parlé hier soir, qu'on est dans l'imaginaire, qu'on est à côté de la vie et non pas dans la vie. Mais une chose toute simple. Pas dans la vie, ça ne veut pas dire être, voilà, être toujours en train d'écrire des fictions, des romans. Non, c'est simple, le simple fait de, lorsqu'on se lève, de croire que quelque chose s'est arrêté parce qu'on est debout avant de se mettre en marche, on est déjà dans la fiction. On n'est plus dans le vivant de ce que c'est qu'un corps vivant. On parlera simplement dans cette position debout, avec évidemment tout ce qui se passe. Donc, cette simple exploration du fait d'être debout, la différence de figé dans une représentation et le fait de le vivre pleinement, on pourrait dire que dans cette exploration-là, on pourrait presque développer tout le chemin spirituel, dans cette simple exploration. Découvrir tout d'un coup ce que c'est que ce simple fait d'être debout, non pas de saisir le fait d'être debout. De la même manière, quand vous asseyez, on vient pour l'assise, voilà, on a dû venir du réfectoire, de sa chambre et autres, on vient là, on s'assied, on a accompli quelque chose, on est assis. Ça, c'est terminé. Puis on a l'impression, voilà, il y a quelque chose, c'est stable, c'est terminé. Alors que rien n'est terminé, on est venu depuis l'extérieur, là, on s'est assis, et le fait d'être assis continue d'instant en instant. Dès qu'on le fige, dans cette représentation de. Représentation, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'assez spontané, cette représentation du fait, ce concept du fait que voilà, je suis assis. On ne dit pas je suis assis, on n'a pas besoin de l'exprimer aussi explicitement. Mais là, on est à nouveau, on est dans l'imaginaire. Même si on est dans l'imaginaire, même si on n'est pas en train de penser au petit déjeuner, à demain, etc. Non, simplement, on est là avec cette expérience d'être assis qu'on a figé dans cette représentation. Vous voyez, comme le langage peut être trompeur, on pourrait dire voilà, ben, voilà je suis assis, ou même dire, je me souviens, un des maîtres disait, enfin, Molin Radji disait, si lorsque je suis assis, je sais que je suis assis, c'est la méditation, mais c'est ambigu parce que si on dit je sais que je suis assis, je sais que je suis assis, assise, on est à côté de la méditation. Vous voyez, c'est pas de dire je sais que je suis assis, dans ce sens-là, hein, c'est ambigu. Donc, comment, d'une certaine manière, on croit qu'on peut mettre la vie sur pause? Il y a un beau paysage, pause. On est assis, pause, ça y est, non? On ne peut pas l'arrêter, ça continue, ça continue. Donc on voit là qu'on passe à une expérience vivante, à plutôt quelque chose de figé. Maintenant, il faut bien se dire que dans le développement de la stabilité, on passe par des représentations parfois. C'est ce qui permet de stabiliser l'esprit. Si on vient, je suis conscient, consciente d'être assis, assise. Dans un premier temps, je ne suis pas distrait, dissipé par beaucoup de choses, ça permet de stabiliser l'esprit. Mais il faut laisser cette expérience ouverte pour pouvoir ne pas la saisir. Dans la marche aussi, tout d'abord, il y a ces représentations qui viennent essayer de nous centrer sur quelque chose. La représentation, c'est comme quelque chose qui nous pose sur l'expérience et ensuite on peut laisser tomber la représentation. Mais Ce fait de nous poser sur l'expérience est aussi important. Tout d'abord, on a une représentation de la respiration, de la zone de la respiration, la poitrine, l'abdomen ou le corps. On a cette représentation qui nous permet de stabiliser l'esprit et puis on passe à l'expérience vivante. Il y a ce cheminement. Et cette expérience vivante, si vous voulez, ben c'est là que on ne la saisit plus. On pourrait parler ici de non-sélectivité parce qu'on ne s'y attache pas. On ne s'y attache pas pour stabiliser l'esprit. Et là, on entre dans la deuxième attitude, qu'on peut appeler pleine conscience, mindfulness aussi, qui est vipassana. Qui est là, donc qui est la disponibilité qui fait que l'esprit devient clair par rapport à ce qui est éprouvé. Et si on développe, ça va être un peu ambigu, mais à ce moment-là, lorsqu'on est vraiment posé sur l'expérience, à ce moment-là, eh bien, il y a cette clarté. La clarté ne vient pas parce qu'on rajoute quelque chose, on fait un effort plus grand. La clarté vient du fait que, tout d'abord, on a cette manque de stabilité, il y a cette stabilité, et puis tout d'un coup il y a le contact avec l'expérience, il y a l'intimité, et c'est cette intimité qui va permettre la clarté. Cette intimité qui est la clarté à l'expérience. On rajoute rien, pas même de rajouter de la clarté à l'extérieur de l'intimité à l'expérience, qui viendrait de l'extérieur. Donc c'est cette intimité, si vous voulez, le terme intime veut dire ce qui est le plus intérieur. Alors bon, c'est un peu ambigu ici. On pourrait dire pour nous ce qui est sans intermédiaire. On est dans l'expérience sans qu'il y ait un intermédiaire, c'est-à-dire une interprétation, sans qu'il y ait un mot, un concept qui vienne pour essayer de définir ce dont il s'agit. Donc sans représentation, sans image. Maintenant, il ne s'agit pas de se battre contre les images, parce que là, on va vraiment se compliquer la vie. Oh non, voilà, il y a une représentation, il faut que j'élimine, etc. Comment on va passer de cette indication qui nous pose sur l'expérience à cette intimité, comment on va passer de l'un à l'autre, simplement, dans le fond, par l'intérêt, la curiosité qu'on apporte à l'expérience elle-même. On veut la goûter plus pleinement. Dans le fond, qu'est-ce que c'est que cette position assise, si on veut, bon, voilà, mais comment est-ce qu'elle est éprouvée? Donc c'est cette disponibilité à goûter plus pleinement l'expérience qui permet l'intimité et qui fait qu'on est clair sur l'expérience. L'intérêt, la curiosité. Pas une curiosité intellectuelle qui voudra mettre des mots analysés, oui, c'est ceci, c'est cela. Même si ça arrive parfois, surtout quand on découvre quelque chose, mais cette curiosité qui veut goûter plus pleinement. Donc on voit bien ce jeu des. Voilà, je pourrais avoir certaines expériences, certaines douleurs, par exemple, dans l'épaule, le genou, des tensions et autres, et tout ça, ce sont des représentations, des concepts. Voilà, le genou, c'est un concept, une représentation très utile, hein. Les représentations ne sont pas inutiles, mais de quoi est-ce que je fais l'expérience? Ou dans l'épaule, si je suis dans cette expérience-là, à ce moment-là, il y a ce vécu de cette expérience. Ici, je dirais dans cette zone-là, mais quand on l'éprouve, on ne dit pas dans cette zone-là, il y a cette intimité à cette expérience-là. Donc, les notions, les concepts, par exemple, douleur, pourrait m'empêcher de ressentir vraiment. Si j'avais une douleur dans le genou, eh bien, si je m'attache à cette notion douleur, je ne ressens pas vraiment. Oui, je ressens, c'est pour ça que c'est une douleur et qu'elle m'embête peut-être bien, mais le fait de dire douleur, ça fige l'expérience. Mais si je me dis douleur, d'accord, mais qu'est-ce que c'est comme sensation? Ici, je me pose une question, on peut utiliser la réflexion parfois pour essayer d'être un petit peu plus en intimité. Et puis je me rends compte que dans le fond, ça brûle, ça picote, etc. Je mets des mots, mais ensuite je laisse tomber ceci. Je ne vais pas constamment me dire, ah oui, ça picote, c'est des picotements, etc. Parce qu'à ce moment-là, on vient interférer avec l'expérience. Mais par moments, on utilise les mots qui nous permettent d'être un petit peu plus précis sur l'expérience, mais on ne s'attache pas. Ce n'est pas le mot qui est l'expérience, c'est l'expérience. Et le mot, quelquefois, nous permet d'être un peu plus précis. Donc dans le vipassana, si vous voulez, ou la pratique de vipassana, contrairement à samatha où on peut utiliser des représentations qui aident à stabiliser l'esprit, dans la pratique de vipassana, il s'agira de dépasser tous les concepts, toutes les représentations, pour justement découvrir la réalité de ce que nous sommes, du monde dans lequel nous vivons. Évidemment, il faudrait quand même un petit peu dire qu'est-ce que ça veut dire réalité, c'est des termes comme ça. Il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire, mais là je vais essayer déjà de donner quelques indications. Pourquoi le concept est problématique, la représentation, pourquoi est-ce qu'elle est problématique? Je parle d'une petite expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps d'ailleurs, quand j'étais au moulin de Chaves, dans une retraite, et eh bien là. Une personne qui s'occupait de la cuisine, être cuisinière, et puis on a parlé lors d'un repas, avant le stage, et puis je lui parle d'un ami, voilà, je lui demande si elle le connaît, parce cet ami vit dans la région. Elle me dit, ah oui, il était dans le fond le compagnon de ma mère pendant 4 ans. Oh, ben, c'est très intéressant, ça, c'est super, on parle un petit peu, oui, voilà, et très, très bon traducteur du tibétain. Et puis je lui dis, puis alors, comment est-ce qu'il va? Mais Dieu, il est décédé il y a 3 ans. Vous voyez, le problème, c'est que dans le fond, on a parlé de cet ami, on pouvait parler de quelque chose sans que ça détermine si il existe ou pas. Le problème du concept, c'est que le concept, il n'a rien à dire sur l'existence. Je vous donne une citation de Saint-Augustin. Si j'appelle Saint-Augustin ou des gens comme ceci, c'est pour montrer que les explorations sont pas différentes. C'est pas parce que Saint-Augustin, un théologien chrétien, que tout d'un coup il perçoit les choses différemment. Il peut les nommer différemment, mais là il parle un langage qui nous parle très très bien. Il dit, le défaut de la connaissance par représentation est d'être commun à la fois au présent et à l'absent. D'être adapté à représenter l'absent comme s'il était présent. La représentation, elle a cette capacité à représenter quelque chose comme s'il était présent. Et nous, la représentation, le souvenir et autres, nous présentent toujours quelque chose avec le sentiment que ceci, c'est présent, ça existe, c'est présent. Donc il a cette capacité, il dit rien, la représentation dit rien si ça existe, si ça n'existe pas. C'est bien là la difficulté, c'est pour ceci que si on veut essayer d'aborder la réalité, l'approfondir, il faudra qu'on dépasse ces concepts qui ne disent rien sur la réalité. Ils ne disent pas si une chose elle est présente ou absente, si elle existe ou si elle n'existe pas. Donc ceci, c'est un leurre, le concept, c'est très utile, nous en avons besoin, mais lorsqu'on veut aborder, essayer d'explorer un peu plus intimement ce qu'est la réalité, il s'agit de dépasser ceci. Donc voilà ce qu'il dit, l'existence n'est pas représentable par concept. On ne peut pas représenter, on ne peut pas penser l'existence, on peut seulement l'éprouver. Et ça, on est au cœur de notre exploration. L'existence, d'une manière générale, on ne peut pas l'aborder, on ne peut pas la toucher par le concept. Le concept, il peut pas, c'est pas son domaine. Il peut parler de 1000 choses qui sont des représentations, mais justement, et le concept à sa vie dans un monde qui est le monde des représentations, mais qui est un monde d'abstraction. Ouais, très très utile, on vit ici, on a un horaire, on a beaucoup d'éléments qui sont ce monde conceptuel qui nous aide. Et vous voyez, on a tous les concepts qu'il faut pour arriver à que les gens coupent les légumes, que les cuisiniers préparent un bon plat, etc., qu'on soit là, qu'on ait de la bonne nourriture dans l'assiette. Mais évidemment, si on reste dans le concept, on ne va pas pouvoir goûter. À un moment donné, ben, on laisse tomber tout ce qui s'est passé et puis on goûte la nourriture. Donc le concept est utile, mais à un moment donné, s'il commence à se substituer à la vie, voyez, si quand je mange, je me demande quelle épice il a mis, comment il a fait cuire ceci, je ne vais jamais goûter ce qu'il y a dans mon assiette. Donc, la vie, si on veut l'aborder en disant c'est ceci, c'est cela, etc., c'est bien hier, c'était mieux hier, on passe à côté de la vie. Il y a un moment donné où il faut être dans cette intimité. Donc, l'existence n'est pas représentable par concept. Et ça, évidemment, ça a des implications immenses. Ça veut dire que la science ne peut rien dire au sujet de notre existence. Parce que la science, c'est les concepts. Elle peut dire mille choses, elle peut parler de notre cerveau de manière extrêmement habile, utile, beaucoup de choses utiles, mais ce qui est l'essentiel, ce qui est avant toute science, avant toute réflexion, qui est justement l'existence, ceci, les concepts n'ont pas accès, la science n'a pas accès. Ce n'est pas ma propre réflexion un peu comme ça, auto-centrée. Non, ça, je crois que c'est assez clair pour les philosophes et pour beaucoup de scientifiques. Ils savent très bien que le domaine, c'est un domaine spécifique, mais qu'on ne peut pas appliquer à tout. Alors, de nos jours, c'est un peu bizarre parce que, ouais, faut que les choses soient prouvées scientifiquement pour qu'elles aient de la valeur. Mais la science, elle a rien à dire à ce niveau-là, au niveau de l'existence, au niveau de la réalité telle que nous la vivons, telle que nous pouvons l'éprouver. Donc dans notre pratique, évidemment, il s'agit justement de faire une distinction entre ce qu'est de l'ordre de l'imaginaire et de l'ordre de l'intimité à l'expérience. Un des éléments importants est évidemment, lorsqu'on médite, de reconnaître quand des souvenirs surgissent, que ces souvenirs qui ont l'apparence, qui semblent nous donner de l'existence ou de la présence, mieux parler de présence, semble donner de la présence à ce souvenir, ce qui est absent, la confusion. C'est comme si ça ne nous toucherait pas si on n'avait pas cette confusion-là, si le souvenir n'avait pas cette manière de se faire passer pour présent, ou pour nous de le prendre pour présent, c'est pas tellement intéressant. Peu comme si on prenait un catalogue de voyage, voilà, je ne sais pas, choisissez où vous voulez aller, et puis on ne va pas passer ses vacances à regarder le catalogue. Oh, j'ai passé des tellement bonnes vacances, j'avais trois catalogues, c'est super. Mais ben, le souvenir, c'est la même chose, c'est pas un vécu, c'est juste un catalogue personnel avec ses images qui a un impact sur le maintenant, ce que je vis dans le présent, évidemment, mais le souvenir lui-même, même s'il a cet aspect de présence, il n'est pas présent. Donc, un des éléments, c'est de reconnaître. Pas besoin de se battre contre le souvenir, mais de reconnaître qu'il se passe dans l'instant. Le souvenir apparaît comme quelque chose qui n'est plus là, mais c'est dans l'instant qu'il surgit, de même que le projet, c'est dans l'instant qu'il surgit. Et ça, c'est déjà un développement de la sagesse immense. On pourrait très bien avoir une pratique tranquille où on serait très apaisé sur la respiration, etc. Ça serait bien, ça serait une méditation agréable, mais ce n'est pas dit qu'on apprendrait autant que si on peut déterminer, reconnaître que le souvenir se passe dans l'instant, que le projet se passe dans l'instant. Là, il y a un important aspect de la sagesse qui se passe. Donc, si des souvenirs surgissent, ça n'a pas besoin de les chercher, ou bien les projets, ça peut être simple. Voilà, avant d'aller au réfectoire, je vais passer là, aux toilettes et autres. Donc, les projets peuvent être extrêmement simples, mais c'est quand même, ils surgissent dans cet instant-là, alors que vous êtes encore assise en méditation. Donc, reconnaître ceci, c'est très important. Ça permet justement, tout nos cheminements va être de décrédibiliser ce que nous prenons pour réel. C'est essentiellement cette décrédibilisation. La tranquillité de l'esprit va nous permettre d'être beaucoup plus percevants dans ce qui surgit, pas être attiré par beaucoup de choses, Mais c'est cette décrédibilisation de la confusion qui est importante. Donc souvenir, voilà, ça se passe dans l'instant. C'est une expérience présente. Le projet, c'est une expérience présente. Et aussi reconnaître lorsqu'on substitue au vécu présent une représentation, un jugement, une évaluation, c'est bien, c'est pas bien, c'était mieux qu'hier, etc. Ou juste comme je l'ai dit, l'image de la position assise plutôt que l'expérience de la position assise. On est ici dans des choses extrêmement subtiles du point de vue de l'attitude, mais on est aussi dans une exploration qui tend à nous libérer d'un conditionnement extrêmement important. L'enjeu, là, il est très important. C'est pas juste, ouais, bon, et finalement, hein, passé, avenir, peu importe, hein, moi j'aime bien me perdre dans les souvenirs, ça passe le temps d'ailleurs. Ou bien, je fais des projets, c'est super, la prochaine retraite, elle sera plus longue. Voilà. Donc, de découvrir hein, ceci, la nature du souvenir, la nature du projet, la nature de l'évaluation de ce qui se passe dans l'instant. Là, il y a une grande sagesse qui peut se développer. Sans se prendre la tête, on dit oui, mais alors ça, ou il a dit ça, ou on dit ci, ou ça, etc. Ben, le souvenir, dans le fond, il est juste là. Voilà, si j'imagine que oh, j'étais au bord de la mer il n'y a pas longtemps, c'était génial. Bon, super, mais ouvrez les yeux, elle est où la mer? Mince, elle a disparu. Oh, elle était là il y a un instant, ou je ne sais pas, moi. Vous voulez bien? Ah, mais ça a disparu. Vous êtes en train d'argumenter avec une personne et autre. Non, mais quand même, tu n'aurais pas dû faire ci et ça. Je suis tellement content, je me réjouis de te voir, etc. Et ouvrez les yeux. Vous verrez, elle a passé par la fenêtre. C'est l'imaginaire qui était juste là dans l'instant, mais qui avait ce côté de nous fasciner, cette manière de nous fasciner. À nouveau, ce n'est pas un défaut, mais si on veut approfondir et se libérer de cette confusion, il s'agit de reconnaître ceci. Donc, lorsque surgit ce qu'on pourrait appeler des entraves, des difficultés, de les reconnaître comme telles, c'est une source de sagesse et de liberté immense. Non pas quelque chose de tout de suite à éliminer avant d'avoir vu la nature de ceci. Donc il y a un passage naturel entre la stabilité, si on prend l'exemple de la respiration par exemple, un passage naturel d'une attention qu'on porte à la respiration, sensation dans les mains, peu importe, qu'on porte à la respiration, on sent qu'il y a l'attention qui est là, qui est dirigée, sélective, dans une zone du corps, avec une sorte de représentation, peut-être d'enflement, au contraire d'abaissement, etc. Il y a cette représentation. Et puis, plus l'esprit se calme, plus il va pouvoir s'approcher de l'expérience, être en intimité, tout d'un coup, il y aura cette intimité qui passera naturellement à Vipassana. Il ne s'agira pas tout d'un coup de dire qu'est-ce que je rajoute maintenant? C'est dans la disponibilité à l'expérience elle-même que cette intimité va se découvrir. Maintenant, dans l'expérience non sélective, puisqu'on veut quand même parler de ceci, il se peut très bien que quand l'esprit est suffisamment stable, je n'ai pas besoin d'une zone d'ancrage et je reste simplement là avec ce qui surgit. Ce qui surgit d'instant en instant. Entre l'instant passé et l'instant à venir, ce qui surgit dans cet instant, peu importe ce qui surgit à ce moment-là, si l'esprit a cette qualité de stabilité, il va ne pas être distrait par d'autres choses, il va pouvoir rester dans l'intimité. Dans le fond, le développement de notre pratique, c'est cette capacité à être intime à chaque instant avec ce qui surgit, sans préprogrammation. Il n'y a pas de programme à avoir comme notre machine à laver, non? Il y a juste ça. Donc c'est pour ça qu'on parle de non-sélectivité, cette disponibilité. Il y a si vous voulez, une intention qui est une intention en négative, ce qui est J'ai l'intention de ne pas me perdre dans le passé, dans l'avenir, etc. Cette intention de ne pas éviter d'être là, attention négative, de ne pas me perdre dans autre chose, et qui fait que on va pouvoir être dans cette intimité avec chaque expérience lorsqu'elle surgit. C'est ce qu'on appelle Kanika Samadhi, cette concentration, cette méditation dans l'instantanéité de chaque expérience. Et ça ne demande, c'est pas compliqué, c'est l'expérience la plus simple. C'est l'extrême de la simplicité. Mais en chemin, on rencontre beaucoup, beaucoup d'habitudes, de croyances, etc. Pas toujours pourquoi, quelquefois par moment, on est juste dans cette sensibilité, on se rend compte que oh, il n'y a vraiment rien à faire, je ne comprends pas pourquoi, c'est pas toujours là. Et puis si je veux le refaire, je me rends compte que je commence à me compliquer la vie. Donc ça, je vous dis ceci pour pas que vous croyez qu'il faut faire des choses compliquées. C'est l'inverse. Quand on essaye de pas trop interférer, mais d'être disponible et de ne pas croire qu'il devrait se passer autre chose. Croyance qu'il faudrait qu'il se passe autre chose pour que la méditation soit bonne, mais tout est là, à chaque instant. C'est l'intimité qu'il s'agit pour moi, à laquelle il s'agit pour moi de m'ouvrir, qui va permettre cet approfondissement. Voilà donc quelques remarques. On reviendra sur pas mal d'aspects que j'ai évoqués ici. J'ai développé un peu ce que j'ai dit hier et aussi un peu la pratique qu'avait décrite Sandrine hier, et puis on va revenir sur certains aspects.